tiens à vous remercier de m'accueillir dans votre maison de quartier, dans votre belle bibliothèque, donc des Trois Mâts à Angers. Et donc, la conférence de ce soir s'intitule « Jouer un plaisir nécessaire puisque, effectivement, nous allons le voir, c'est essentiel pour l'enfant. Donc, la conférence va se dérouler en quatre parties. La première partie va concerner le processus psychologique de l'expérience ludique. La deuxième partie va concerner l'importance de laisser du temps aux enfants pour qu'ils puissent jouer. La troisième partie va concerner la diversité des expériences ludiques. Et la dernière partie va concerner les bienfaits du jeu. Donc, pour ce qui concerne la première partie, donc, c'est le processus psychologique de l'expérience ludique. Donc, c'est vrai pour l'expérience ludique, mais c'est vrai en général pour tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on expérimente des choses en général, on fait des choses, on expérimente des relations avec d'autres personnes, et au cours de ces expériences, on va empiler des mémoires. Donc, ces mémoires que l'on va empiler, elles peuvent être négatives ou positives. Et en fonction des mémoires négatives ou positives que l'on va emmagasiner, on va développer des comportements. Ça va donc induire des comportements, des attitudes et des comportements qui peuvent être négatifs ou positifs. Puisque, à travers les expériences, l'individu, du coup, va avoir des émotions. Et ces émotions, elles peuvent être plus ou moins négatives ou positives. Donc l'expérience ludique, en fait, elle permet à l'enfant d'accumuler ses mémoires positives essentiellement, puisque en principe, quand on joue, on recherche le plaisir et du coup, ça offre plus de chances aux enfants d'emmagasiner des mémoires positives en les laissant jouer. Ce qui est important aussi, c'est que du coup, il se passe quelque chose de chimique au niveau du cerveau. Le cerveau va libérer des hormones au moment où l'on joue, essentiellement. Et ces hormones vont avoir des effets bénéfiques sur notre organisme, et notamment sur l'organisme des enfants. Donc ça, c'est aussi très essentiel. Donc il y a notamment la dopamine, qui est l'hormone de la récompense ou du plaisir quand on a le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien ou une bonne action. Il y a la sérotonine qui est l'hormone de la bonne humeur, donc qui est développée quand on joue de la musique, quand on prend un bain, quand on joue, quand on fait quelque chose qui nous plaît. Et puis il y a les endorphines, donc qui sont des neurorégulateurs, qui sont du coup des hormones du bonheur et qui sont développées par exemple quand on fait du sport ou quand on fait de l'activité physique. Donc pour l'enfant, évidemment, selon ses activités à travers ses expériences ludiques, quand il bouge beaucoup, par exemple, dans les parcs et jardins, eh bien, il va développer cette hormone qui va favoriser le bonheur. Donc tout ça sont des choses à prendre en compte avant de parler de l'objet jeu et jouet. Ce qui va être super important, surtout, c'est de laisser du temps aux enfants. Et très souvent, on ne laisse pas suffisamment de temps aux enfants pour qu'ils puissent s'installer à jouer. Donc ça, c'est souvent une difficulté dans les familles ou à l'école ou ailleurs, parce que pour pouvoir développer son jeu, on a besoin d'un espace-temps qui va favoriser la créativité et l'envie de jouer. Si on est toujours dans le stress ou si on dit aux enfants « dépêche-toi, allez, tu as 10 minutes pour jouer, mais là, dépêche-toi », l'enfant va être stressé et à ce moment-là, il va développer le cortisol au niveau de son cerveau, c'est l'hormone du stress, et donc ça va tuer sa créativité et tuer sa possibilité de jouer ou de faire autre chose d'ailleurs. Donc nous, en tant qu'adultes, il faut qu'on soit attentif à ces temps qu'on va donner aux enfants pour qu'ils puissent mettre en place leur jeu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très très importante, c'est le matériel que l'on laisse à disposition des enfants. Donc souvent, j'entends les parents qui disent « Je comprends pas, la chambre est pleine de jeux et de jouets et les enfants ne jouent pas ». pour que les enfants jouent, d'abord, ils ont besoin d'être sécurisés. Un petit enfant qui a moins de 5 ans, par exemple, comme cette petite fille, elle n'ira pas jouer dans sa chambre, malgré les nombreux jeux qu'elle aura dans sa chambre, parce que son besoin, c'est d'être sécurisée. Pour qu'elle soit sécurisée, ce qu'elle aime, ce qu'aime l'enfant, c'est être proche de vous, c'est de vous sentir proche. Il n'a pas forcément besoin que vous jouiez avec lui nécessairement, mais il va rechercher votre proximité. Donc, il est important de pouvoir aménager des espaces de jeu dans les lieux de vie de la maison, comme par exemple les bassins à manger ou un espace public dans la cuisine si vous avez vraiment beaucoup de place dans la maison. Si vous installez tous les jeux dans les chambres, eh bien, quand l'enfant est tout petit, il n'ira pas jouer dans la chambre parce que son besoin primaire, c'est d'être sécurisé et d'être proche de vous. Ensuite, l'autre chose qui va permettre à l'enfant de jouer dans de bonnes conditions, c'est d'avoir du matériel adapté à son développement. Donc, ce qui est important, c'est que ce matériel soit en bon état et qu'il soit suffisant dans un univers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très souvent, dans les chambres d'enfants, on trouve une multitude d'objets, mais qui finalement n'ont pas de lien entre eux. Donc, il y a des tas de choses, mais l'enfant ne peut rien en faire parce que il va y avoir un véhicule, et puis il va y avoir peut-être, une poupée, mais il n'y a pas de vêtements avec les poupées, il n'y a pas de connexion entre les objets. Donc, pour que l'enfant puisse imaginer son jeu et créer son jeu et jouer, il va avoir besoin d'éléments qui sont connectés. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, si je prends ce petit doudou et cette mallette de docteur, voilà, si c'est connecté, l'enfant pourra mieux imaginer son jeu parce qu'il verra les deux objets qui seront connectés l'un avec l'autre. Et plus vous développez des objets connectés entre eux, plus vous allez pouvoir donner l'envie de jouer à vos enfants. Et ce sera d'autant plus riche si, par exemple, l'enfant a accès aux dinosaures, à des jeux de dinosaures, par exemple, et à des ouvrages sur les dinosaures. Pourquoi ? Parce qu'un enfant de 3-4 ans, il n'a aucune culture sur ce que représente le monde des dinosaures. Donc, pour nourrir ces jeux, il va falloir leur raconter des histoires, nourrir leur jeu à travers des contes, des histoires que vous allez leur raconter, et à partir de ces éléments-là, ils vont pouvoir s'enrichir et nourrir leur jeu. Ça veut dire aussi que vous allez aussi développer le lien que vous allez avoir avec vos enfants, puisque plus vous allez passer de temps à leur raconter des histoires et plus vous allez laisser à leur portée des éléments qui vont être constitutifs de leur action de jouer, ils pourront jouer seuls ou avec d'autres enfants ou avec vous. Donc là, on a d'autres exemples, par exemple, sur les pirates. C'est vrai que si on raconte des histoires de pirates aux enfants, on va nourrir leur imaginaire parce que, du coup, quand on a 4-5 ans, les pirates, ça ne nous parle pas. Si on n'a pas la chance d'avoir un parent ou un papy ou une mamie ou un professionnel qui raconte des histoires sur les pirates, si on amène des jeux de manière brutale aux enfants comme ça, eh bien certes, ils vont avoir la boîte de jeux des pirates, mais ils n'arrivent pas à le reconnecter à ce que représente ce monde des pirates. Donc il est important de développer leur culture, en fait, avant même de leur apporter des jeux et des jeux. Donc ça veut dire aussi que les jeux sont importants à connecter ensemble. Donc là, c'est le cas dans notre bibliothèque, puisque vous amorcez des espaces de jeux en lien avec les livres.
Voilà, c'est ça. Je vous montrerai tout à l'heure. On dispose aussi de sacs livres et jeux. Donc, en fait, dans un sac à dos. au niveau de la thématique. Voilà. Parce que on sait que le livre amène au jeu. Voilà. Inversement, le jeu peut amener justement à vouloir avoir plus d'histoires sur les pirates ou plus d'histoires sur les. Donc à l'intérieur, maintenant, on a précisé les petites tranches d'âge aussi dessus. Vous avez tout simplement le petit jeu. Donc là, c'est un petit mémo avec un petit livre. Voilà. Donc il y a pour différents âges et puis différentes thématiques.
Alors ensuite, donc pour reprendre le propos sur la connexion des objets, donc ce qui est important aussi de faire, c'est d'organiser vos espaces de jeu, notamment à la maison. C'est vrai que, bon, après je ne sais pas si vous êtes, s'il y a des professionnels dans le groupe, mais voilà, vous êtes... D'accord. Bon, c'est un peu la même chose pour les assistants maternels du coup. Puisqu'en plus vous êtes à votre domicile, donc vous allez devoir organiser vos espaces de jeu. C'est vrai que pour l'enfant, c'est plus facile si les jeux sont préalablement installés. C'est-à-dire qu'on va organiser ce qu'on appelle des mises en scène de jeux. Il va falloir pour susciter l'envie de jouer. Plus vous installez des choses à destination des enfants, avec des objets qui sont connectés, par exemple, vous installez des dragons, des livres sur les dragons, peut-être un château, des chevaliers, des princesses, voilà, on va imaginer que c'est un univers autour des châteaux, admettons. Et du coup, vous allez pouvoir faire cette installation et vous verrez que si vous faites cette installation, les enfants vont s'installer à jouer. La difficulté pour l'enfant, c'est de retrouver en fait les objets dans des contenants qui sont parfois hermétiques, comme des coffres, souvent, dans les familles, on voit des coffres en bois où on range les objets. Le seul souci, c'est qu'un enfant qui a 3, 4 ans, 5, même 5 ans, il n'est pas en capacité de se dire, tiens, je vais aller chercher tel jouet qui se trouve dans le coffre, dans la chambre, au premier étage, parce que j'ai envie de jouer à ce jeu-là. Ça, c'est impossible. Donc, si vous souhaitez que vos enfants s'installent à jouer, il est plus pertinent de passer par l'étape de mise en scène pour susciter l'envie de jouer et surtout susciter l'autonomie de l'enfant, puisque cette autonomie, il en aura besoin quand il va grandir. Si à chaque fois vous l'empêchez quelque part d'être autonome dans l'action de jouer, eh bien vous allez finalement l'entretenir dans ce processus-là. Donc plus vous allez installer des jeux ou des mises en scène de jeux, ou plus vous allez montrer aux enfants les jeux et les jouets par le biais de rangements, plus vous allez développer son autonomie, son envie de jouer, seul ou avec d'autres enfants ou avec vous. Et ça, c'est souvent un souci dans les familles, puisque j'entends souvent, ou même des professionnels, qui dit, ben voilà, les enfants veulent toujours, ils veulent toujours que je joue avec eux. Alors, effectivement, il y a ce premier problème de proximité, c'est-à-dire que l'enfant a besoin de sécurité, donc il va rechercher votre présence. Alors, c'est pas forcément qu'il veut jouer avec vous, mais c'est qu'il a besoin de vous sentir près de lui. Et l'autre chose, c'est le fait d'organiser des mises en scène pour développer l'autonomie de l'enfant. Donc, comment on fait ? Puisque quelquefois, dans les maisons, les espaces sont restreints. Quelquefois, les professionnels ou les parents ont du mal à accepter que les jeux et les jouets soient sortis. Donc ça, c'est aussi une autre problématique. Mais du coup, ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'aménager, par exemple, une étagère avec des jeux de société qui peuvent être installés en haut pour les plus grands. Au milieu, vous pouvez mettre des jeux de société pour les moyens et des jouets pour les jeux et des jouets pour les plus petits en bas. Ensuite, vous pouvez faire l'acquisition de bacs ou de petites étagères ou de commodes ou de tiroirs. Après, c'est à vous de voir, mais de façon à pouvoir organiser le rangement par univers. Donc, par exemple, vous pouvez mettre dans un bac tout ce qui va concerner le château fort, dans un autre bac les dinosaures, dans un autre bac les véhicules, les voitures, etc. Les pirates, les bébés, les vêtements de bébés. Ce qui est important pour l'enfant, c'est que du coup, à chaque fois qu'il souhaite jouer à un univers de jeu, on va dire, et bien qu'il puisse trouver le matériel suffisant pour mettre en place son jeu. Quand je dis suffisant, ça veut dire que si vous gardez plusieurs enfants, par exemple pour vous, madame, et bien, si vous avez trois enfants, par exemple, on garde à peu près du même âge, il est important que ces trois enfants puissent trouver le matériel pour jouer ensemble. Donc, ça veut dire que c'est bien qu'il y ait au moins trois bébés, par exemple, des vêtements, peut-être trois petits lits pour coucher les enfants, ou au moins la place pour coucher les trois bébés, enfin, etc., etc. Puisque dans la petite enfance, les enfants vont utiliser ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est-à-dire qu'ils vont voir l'autre enfant avec un bébé, par exemple, ils vont vouloir récupérer ce bébé, et une fois qu'ils l'ont, finalement, les trois quarts du temps, ils le jettent par terre. Donc si vous avez trois bébés ou trois camions à peu près identiques, les enfants vont jouer effectivement avec cet effet miroir, mais ils vont aussi, à un moment donné, rentrer en interaction avec les autres enfants. Ça va favoriser ça. Donc là, c'est important de penser à multiplier le matériel quand vous avez plusieurs enfants à la maison. Il est important également que chaque enfant trouve sa place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous aménagez un espace de jeu avec une table, une table basse par exemple, avec des petites chaises pour faire un espace dessin, ou si à côté vous avez une étagère avec des jeux de société ou des puzzles ou du matériel qui peut se servir sur la table, eh bien du coup il est important que chaque enfant ait la possibilité de s'asseoir à cette table. Donc si vous mettez qu'une chaise et que vous avez trois enfants, ça va forcément créer à un moment donné des histoires, puisque tout le monde va vouloir la chaise, ou tout le monde va vouloir le pot à crayon ou le matériel mis à disposition. Donc il est important de penser au fait que chaque enfant trouve sa place. Donc, après, il peut en avoir la possibilité, il la trouvera peut-être pas forcément, mais en tout cas, il y a cette possibilité. Donc, ce qui va être aussi intéressant, c'est de proposer aux enfants plusieurs espaces. Vous pouvez très bien aménager un espace avec un tapis, par exemple à la maison, sur lequel vous avez des bacs avec des albums, des histoires, des livres pour différents âges. Et puis, vous pouvez avoir des bacs avec des jeux de construction, des bacs avec différents univers de jeux. Et si tout ce matériel est à disposition des enfants, ils vont pouvoir s'installer à jouer. La difficulté souvent, c'est que le matériel qui se trouve en place dans les chambres d'enfants ou dans les maisons sont éparpillés et ne sont pas connectés. Donc, ce qui va être important aussi pour le développement de l'enfant, c'est de multiplier les expériences ludiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien de leur proposer des jeux de société, leur proposer des jouets, de lire des histoires, de jouer à l'extérieur. Pensez également à aménager des espaces de jeu dans les jardins. Soyez imaginatifs, j'ai envie de dire. Installez-leur des claustras avec des bacs en bois. Et là, vous pouvez installer des dinettes, mettre des bacs à sable, mettre des contenants du matériel pour des matériaux divers pour qu'ils puissent manipuler, transporter, transvaser, et tout ça, ça va leur permettre d'imaginer leur jeu. Ça veut dire que l'enfant aime beaucoup être sécurisé et être proche de vous, mais en même temps, il a besoin d'un espace de liberté en dehors du regard de l'adulte, et il aime bien aussi pouvoir expérimenter et, entre guillemets, boutiquer leurs petites affaires et manipuler, expérimenter, enfin, transvaser, se salir parfois, parce que du coup, mettre les mains dans la terre, mettre les mains dans les feuilles, dans les cailloux, tout ça, ils aiment bien ça. Donc il faut les laisser faire, et effectivement, dans la mesure où il n'y a pas de danger pour eux, vous pouvez leur laisser ces espaces de liberté qui sont importants pour eux et qui développent l'autonomie de l'enfant. Je vois que vous avez des tout-petits. Pour les tout-petits, effectivement, la découverte, elle va être avant tout sensorielle. C'est-à-dire que l'enfant découvre le monde à partir de ses sens. Donc au début, là, on voit la petite fille qui joue avec le bébé. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une interaction et que le petit cherche le contact. On voit bien dans son regard et dans son attitude, il s'avance, là, on le voit, on peut l'observer. Là, c'est intéressant puisqu'il recherche le contact. Et quand l'enfant plus grand accepte ça et joue le jeu, du coup, c'est intéressant puisque la découverte va être sensorielle. Donc le bébé découvre le monde à partir des jeux, en fait, hein, du contact physique et des jeux. Et c'est pour ça qu'il est intéressant aussi de laisser les tout petits sur des tapis plutôt que dans des transats ou dans des sièges hyper confortables qui ont tendance à ramener les épaules en avant et qui empêchent les mouvements des enfants. Donc il vaut mieux laisser les tout petits sur des tapis à plat de façon à ce qu'ils puissent mieux se retourner, bouger, lever les jambes, pouvoir attraper des choses éventuellement. Et donc à ce stade-là, vous pouvez mettre des choses en suspension au-dessus, en sachant que voilà, jusqu'à 9 mois, les enfants sont myopes et qu'ils n'ont pas la vision très claire quand les objets sont trop éloignés. Donc il vaut mieux les rapprocher. Et pensez à mettre des choses très, très préhensibles, puisqu'on peut l'observer sur le tout petit, la main d'un bébé, elle est à peine grande comme le creux de votre main. Donc ça veut dire qu'il faut penser à mettre à leur disposition des objets qui soient vraiment très faciles à gripper, à prendre, et puis des objets qui sont légers aussi, puisque si l'enfant prend les objets et qu'ils sont au-dessus de son visage, ça peut tomber sur son visage et lui faire mal, et du coup, il va empiler des mémoires négatives dans l'expérience ludique. Donc ça, ça va être aussi intéressant à observer. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de favoriser un maximum d'expériences ludiques qui vont favoriser le fait d'accumuler des mémoires sensorielles positives, en fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Une fois qu'on a compris ça, c'est plus facile, je dirais. Et si l'enfant fait une expérience malheureuse, par exemple, s'il tombe de la balançoire, eh bien, il faut essayer de lui redonner confiance en lui pour qu'il puisse emmagasiner une expérience sensorielle positive. Ils sont sages, ces bébés. Voilà, au niveau du timing, c'est fait. Voilà, les 21 minutes sont passées déjà.
21 minutes et quelques secondes.
C'est une performance, hein.